Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes actuellement sur la 94.9 FM et vous écoutez la saison 1, épisode 3 de Radio BD Bedeck, l'émission qui parle de BD, de romans, de manga et de tout ce qui s'en rapproche. Je m'appelle Aeva et j'ai avec moi Alexandre et Mathieu.
Bonjour.
Tu dis pas bonjour Mathieu ?
Bonjour.
Merci Mathieu pour ta participation. On est tous les trois membres de la bibliothèque de bande dessinée des étudiants de Compiègne, aussi appelée BD Bedeck. Vous pouvez nous retrouver du lundi au vendredi au rez-de-chaussée de la bibliothèque universitaire de l'UTC et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram pour découvrir nos activités et notre collection. On est parti pour une heure d'émission. Aujourd'hui le thème principal, des œuvres qui ont un style graphique particulièrement beau, merveilleusement bien dessiné, tout ce que vous voulez. Cette émission est en fait une émission qui va être en deux parties. On reparlera une prochaine fois des œuvres dont les dessins sont un peu en dessous et de ce que ça apporte dans l'œuvre ou pas. Au programme, nos lectures du moment, un peu d'actualité, la chronique du fil et une discussion autour de ces belles œuvres. Et peut-être quelques bonus pour la fin si on a le temps. Vous êtes prêts? Allons-y, Mathieu, à toi l'honneur, dis-nous tout ce que tu as lu récemment.
Non, alors première chose, c'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est quelque chose que j'ai vu et c'est pour Alexandre. Alors en ce moment, je regarde un animé qui s'appelle, je ne saurais pas bien prononcer, ça s'appelle Frieren, je ne sais pas quoi.
D'accord.
C'est juste Frieren, c'est pas Frieren, je ne sais pas quoi. C'est...
Ok, d'accord. Bon, alors il ne se rappelle pas, mais à la BDBD, il avait demandé qu'on l'achète et j'avais dit que c'était nul. Mais en fait, j'ai regardé, c'est bien. Voilà.
Oh mon Dieu, Mathieu,
qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, je raconte quand même l'histoire. L'histoire, c'est ça se passe dans un monde médiéval fantastique, je pense. Et c'est l'histoire d'une elfe qui s'appelle Frieren, qui est quasi immortelle, je pense. En fait, j'en sais rien. Bon, bref, elle vit juste longtemps, et c'est son histoire. Donc, c'est bien. Voilà. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, je ne peux pas te dire grand-chose, parce que c'est vraiment son histoire à travers les âges, puisqu'elle passe, je pense. Bon, au tout début de l'animé, je ne sais pas, c'est des tranches de 20-30 ans à chaque fois, donc c'est quand même assez long. Et c'est juste bien.
D'accord.
Donc, voilà, je m'excuse auprès de Alexandre.
Il n'y a pas de problème. Je ne me souviens pas particulièrement l'avoir recommandé, mais je te crois sur parole.
Si, si, si.
Moi, j'adore le fait que ces excuses soient enregistrées dans l'émission, parce que ça n'arrive pas souvent, ce genre de moment. Et par rapport à Frieren, moi, je ne l'ai pas vu non plus, mais j'ai entendu beaucoup de bien. Et j'ai entendu que, en fait, que, on va dire, l'action, c'est comme si elle se passait avant l'histoire, et que l'histoire, enfin, le manga en lui-même, c'est un peu comme un long épilogue.
Ouais, c'est donc, vrai qu'en gros, ce qui se passe, c'est que, bon, pour être plus précis, c'est comme dans tous les trucs fantastiques normales. Bref, il y a une sorte de groupe de héros qui bat un roi démon. Et Frieren fait partie de ce groupe de héros. Et l'histoire commence au moment où ils battent, enfin, juste après qu'ils aient battu ce roi démon, et au moment où ce groupe se sépare, finalement, et que Frieren repart faire son voyage, je sais pas quoi, qu'elle fait ses affaires. Et l'histoire, en fait, reprend tout son sens au moment où elle vient, je sais pas, genre 30, 40 ans plus tard, et qu'elle vient revoir ses anciens compagnons qui ont plus 20 ans, mais qui ont genre 70 ans ou 80 ans.
Ouais.
Et l'histoire commence véritablement à ce moment-là.
Mais elle, par contre, elle a pas vieilli.
Enfin, si, elle a vieilli, mais c'est juste que... Enfin, bon, à part dans l'histoire, les elfes sont quasiment immortels, donc pour eux, 30 ans, c'est rien du tout.
Ouais, d'accord.
Voilà. Bah, du coup, justement, elle n'arrête pas de répéter que pour elle, bon, en gros, l'aventure qu'elle a faite avec son groupe a duré 10 ans, et que pour elle, 10 ans, c'est rien du tout. C'est,
ouais, d'accord.
C'est peut-être une journée pour elle. Voilà.
Ouais, ouais, ok.
Même pas. Est-ce que tu l'as vu, Alexandre ?
Non, je n'ai pas vu.
Attends, mais quoi, mais... Pourquoi tu conseilles un manga que tu lis pas, en fait ?
Mais ça se trouve, c'est même pas Alexandre qui l'a conseillé.
Si,
hein.
Si, c'est Alexandre.
Parce que je ne m'en rappelle pas particulièrement. Donc
Mais Alexandre, est-ce que tu as lu Frieren ?
Non.
Est-ce que tu as déjà entendu parler de Frieren ?
Un petit peu.
Mais c'est une blague.
Je suis quasiment sûre que c'est pas Alexandre.
Je retire mes excuses et je passe à ce que je voulais vraiment conseiller aujourd'hui.
Trop tard, tes excuses ont été enregistrées, tu ne peux plus retourner
ouais,
en
exactement,
arrière.
Exactement, c'est bon, trop tard pour
ça.
Là,
dans la roche.
Là, je vais vous parler d'un manga qui est quand même vraiment au-dessus. Non, je déconne. Qui est vraiment bien. C'est un manga qui s'appelle 2001 nuits, qui est écrit et dessiné par Yukinobu Oshino. Et qui est sorti il y a vraiment longtemps, donc il y a 50 ans environ, en 1984, et qui est publié par Glénat en France en deux tomes. Donc c'est quoi 2001 nuits ? C'est un recueil d'histoires courtes. Alors je ne sais plus combien il y en a. C'est des histoires qui sont racontées toutes dans un ordre chronologique, sauf deux. Donc on va dire que c'est tout raconté dans un ordre chronologique. Et ça parle de quoi ? Donc déjà le thème, c'est la science-fiction. Ça parle de conquête de l'espace par les humains dans une optique réaliste, c'est-à-dire que le monde est crédible. Ça part pas en, comment dire, en Star Wars ou je sais pas quoi. C'est je ne sais pas comment dire, ça se rapprocherait plus par exemple d'Interstellar ou de son inspiration principale qui est bah, 2001 l'Odyssée de l'espace. Attends, c'est ça le film ?
Oui.
Oui, ok.
C'est 2001 l'Odyssée de l'espace,
ouais. Bon bref, voilà, ça s'inspire beaucoup de ça. Le synopsis de base, c'est que l'humanité a réussi à échapper à une guerre nucléaire et décide, suite à certaines recherches sur l'espace, de se lancer dans la conquête de l'espace pour voir si peut-être une vie autre que l'homme se cache dans les tréfonds de l'espace.
Waouh.
Voilà. Non, en vrai, c'est incroyable. Et on pourra peut-être en reparler pour notre thème principal. C'est extrêmement bien dessiné. Et puis, ce qui est vraiment super, c'est que les histoires, donc toutes les histoires sont placées dans l'ordre chronologique et on a des grosses ellipses à chaque fois avec des changements complets technologie mais qui sont plutôt logiques et parfois même des liens entre les histoires qui se font à travers, je sais pas, des centaines d'années. Mais parfois même, on continue dans le temps et du fait de phénomènes dans l'espace, donc les trous noirs, les choses comme ça qui modifient l'espace-temps, on va se retrouver avec des liens entre les histoires qui sont séparés de centaines voire de milliers d'années, ce qui est incroyable. Je vous conseille de le lire. C'est génial.
Ouais, donc c'est des petites histoires un peu toutes détachées les unes des autres, entre guillemets, mais qui se passent dans le même univers et dans le même esprit.
C'est le même fil rouge. Le fil rouge, c'est la conquête de l'espace, donc c'est l'évolution de l'homme dans la conquête de l'espace. Mais il y a certains personnages qu'on retrouve à dans différentes histoires du fait de l'espace-temps, ou juste parce qu'elles sont restées. Bon, voilà, moi, je ne vais pas parler de qui, je ne vais pas spoiler, mais il y a certains personnages qui restent pour certaines raisons et qu'on retrouve beaucoup plus tard. Et c'est vraiment incroyable comme manga, vraiment. Ça parle aussi de la peur que les hommes ont du fait d'être peut-être tout seul dans l'univers. Et c'est plutôt cette piste-là qu'emprunte le manga, c'est de dire que finalement, la recherche d'une vie qui ressemblerait à la nôtre, donc avec une intelligence, on va dire, qui ressemblerait à la nôtre, est peut-être vaine et qu'en fait, on est tout seul depuis le début. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu peux redonner le nom ?
C'est 2001 nuits.
Ok. Voilà.
Et t'as lu Planète, non ?
Non.
T'as pas lu ? Et j'en parlais avec toi l'autre fois, t'as pas lu Planète ?
Non, j'ai vu, je sais que c'est bien, mais j'ai jamais lu.
Attends, mais comment j'ai pu en parler avec toi l'autre fois si tu l'as pas lu ?
Je connais trop de trucs.
Non, non, je pense que t'as confondu avec ça justement, parce que l'autre fois je t'ai parlé de Planète, tu m'as dit « Ah oui, c'est avec des petites histoires toutes différentes. »
Oui, mais je connais, mais je l'ai jamais vu.
D'accord.
Mais ça n'a rien à voir, Parce qu'il me semble que Planète, c'est beaucoup plus concentré sur les personnages. Bon, là, il y a les personnages, mais là, c'est vraiment l'espace, tout ça.
Oui, voilà. Faudra qu'on fasse une émission sur l'espace un jour, parce que je pense qu'il y a
des choses
à dire, et ce serait super intéressant. Et bon, en tout cas, Planète, c'est bien, mais je ne vais pas en parler maintenant, parce que ça n'a...
Parce que c'est éclaté au sol.
Non, c'est vraiment très bien, mais c'est spécial, mais ça n'a aucun rapport, surtout. C'est pour ça que je ne vais pas en parler maintenant. Sinon, moi, je voulais vous parler de Dengin N, qui a été scénarisé par Yu Kuraishi, dessiné par Kazu Inabe, selon une idée originale de Tanaka Ku. Donc, il y a trois personnes différentes en fait, qui sont sur cette œuvre et qui est publiée chez Pika en quatre tomes. Donc, pour un petit résumé, Nasu est un jeune homme qui mène une vie vraiment pourrie, très honnêtement. Il n'a personne, il n'a pas d'amis. Il doit s'occuper de sa mère qui est alcoolique. Et en plus, il a un boulot ingrat où il n'est pas vraiment respecté. Il est franchement pas très heureux dans sa vie. Mais sa seule source de joie, c'est Misaki Kanzaki, une jeune idole débutante qui peine à faire décoller sa carrière. Il est très attaché à elle et voire complètement obsédé par elle. La vie de Nasu prend un tournant inattendu quand il meurt subitement. Il se libère de son corps, oui, mais pour obtenir une nouvelle capacité, celle de contrôler l'électricité. Il remarque très vite le potentiel gigantesque de ce pouvoir et décide de s'en servir dans l'unique objectif de permettre à Misaki de devenir l'idole numéro 1 du Japon, voire du monde. J'ai pu lire ça récemment. Ça faisait
J'ai une question.
Oui,
est-ce que c'est un manga comique ?
Absolument pas. Non. C'est pas du tout un manga comique. C'est un manga, au contraire, très gore, qui est pas drôle du tout. L'idée de base m'a beaucoup attirée et j'ai beaucoup aimé le tome 1 particulièrement, pour des raisons que j'expliquerai par la suite. J'ai moins aimé ce que ça devenait plus tard. Aussi, je trouve que les dessins, puisqu'on parle de dessins beaucoup aujourd'hui, ils exploitent vraiment bien le concept et ils créent vraiment une ambiance hyper oppressante parce qu'au final, l'électricité, elle est absolument partout. Et ça se ressent vraiment bien à la fois dans l'intrigue et les actions qui se passent et à la fois dans les dessins. Je trouve aussi que le concept, juste de pouvoir maîtriser l'électricité, voire d'être l'électricité, parce qu'en réalité, c'est plutôt ça dont il est question dans le manga. Le mec, c'est pas un pouvoir qui a le pouvoir de l'électricité. Non, c'est l'électricité, en fait. Il se déplace où il veut. Il maîtrise tout ça. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant d'exploiter ça. Et je trouve que le manga l'a quand même plutôt bien exploité. Maintenant, je trouve qu'au niveau des personnages, c'était quand même assez spécial parce que c'est un manga quand même très court en 4 tomes, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. Le personnage principal, il est, je trouve, détestable, c'est un mot un peu fort, mais un peu méprisable quand même, et c'est compliqué de s'attacher à lui. Il n'y a pas beaucoup d'autres personnages beaucoup plus développés, et le personnage pour moi le plus intéressant, c'est l'idol en fait, Misaki Kanzaki, c'est celle qui est la plus intéressante à suivre. Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu ?
Ouais, j'ai une question.
Ouais.
Est-ce que c'est juste un défouloir, ou alors est-ce qu'il y a vraiment... Parce que là, je suis en train de regarder des images.
Ouais.
Et j'ai vraiment l'impression que c'est... Enfin, après, j'en sais rien, je ne l'ai pas lu. Hein. Mais que c'est juste, entre guillemets, de l'horreur pour de l'horreur, quoi. Juste faire peur ou faire des scènes gore, plutôt. Enfin, en fait, la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une histoire, une évolution du personnage, ou c'est juste un prétexte, finalement, pour faire... des trucs un peu malsains pour faire peur, des trucs comme
ça. Ouais. En fait, il y a une évolution du personnage, mais j'aime pas cette évolution. Ah. En fait, voilà, c'est là où je voulais venir. Ce manga, il m'a un peu déçu, très honnêtement. J'avais beaucoup misé dessus. Et en fait, j'ai été assez déçue au final. J'ai pas du tout aimé la direction que ça a pris. Et j'aurais aimé voir autre chose de la part du personnage principal, parce qu'en fait, il a une évolution. Mais très honnêtement, si je dois parler en termes très personnels de ce qui me concerne, j'ai trouvé ça un peu claqué. Et je trouvais que ça, je sais pas, c'était hyper...
Dis ce que tu veux.
Ce que je pense, ce que je veux, voilà. Je trouve que c'était hyper attendu. C'était un... Bon, on souffle un peu, quoi. C'était pas... Je pense que ça aurait pu être mieux autrement. Maintenant, faut pas oublier que le manga, il est en 4 tomes seulement. Ils n'avaient pas forcément le temps, la place de faire beaucoup plus que ça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fini cette manière. Et puis parfois, je trouve aussi qu'il y avait des choses qui étaient trop tirées par les cheveux, même dans l'univers du truc. Il y a des choses qui se contredisent entre de ce qu'on sait du pouvoir du personnage et ce qui se passe après. Ou alors, c'est juste que le pouvoir est mal expliqué et c'est très possible qu'il soit juste mal expliqué. Du coup, on comprend rien. Et aussi, moi, ce qui m'a un peu gênée, c'est qu'il y a pas très longtemps, je me suis mise à lire Death Note. Je l'ai pas du tout fini. J'ai commencé à lire. Et en fait, disons que Denjinen, le pitch de base, ça ressemble beaucoup à Death Note. C'est des enquêteurs qui vont se retrouver à enquêter suite à des meurtres en série qui sont faits d'une manière très étrange, amenant du paranormal. Les enquêteurs sont des excentriques particuliers, dont on ne connaît pas trop le visage, qui sont hyper forts pour résoudre des enquêtes. L'idée de base, c'est comme Death Note. Sauf qu'en fait, Death Note le fait beaucoup mieux. Et en fait, le fait de lire les deux presque en même temps ou de manière aussi rapprochée, ça fait que...
Il y a un comparatif.
Il y a un comparatif qui se fait. J'aimerais ne pas le faire, mais en fait, je le fais quand même. Et c'est pour ça que j'aime un peu moins.
En fait, c'est un manga d'enquête.
Ouais, mais comme c'est en 4 tomes, c'est très léger. C'est pas vraiment une enquête. En fait, l'enquête, c'est ça aussi que j'aime pas. C'est que c'est fait hyper rapidement. Tu comprends pas le raisonnement des mecs, genre... un moment, il y a plein de meurtres qui sont hyper bizarrement. Et puis, l'enquêteur, il est là genre... ça doit être quelqu'un qui est dans l'électricité. Ah oui, c'est... c'est vrai que c'est la première idée qui te vient à l'esprit.
Enfin...
non, mais c'est ça. Alors que je vais pas non plus trop parler de Death Note parce que je voulais pas parler trop de ça aujourd'hui. Mais quand elle, il fait des suppositions, il a d'abord d'autres pistes, il regarde plusieurs choses à la fois, il est pas « ça doit être... » Non, mais c'est bon, enfin... Il tombe pas pile sur le bon truc. La manière dont... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, je voudrais pas tout spoiler non plus. Après, c'est que 4 tomes, donc bon, c'est pas grand-chose à spoiler. Mais voilà, c'est un peu pour ça que ça m'avait un petit peu déçu. En plus, les enquêteurs, il y en a 2, dont une fille. Honnêtement, elle sert à rien, je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Honnêtement, je suis pour les personnages féminins, mais s'ils servent à rien, c'est encore pire, donc autant ne pas en faire dans ces cas-là. Ça, c'est ce que je pense très honnêtement.
Je suis d'accord.
J'avais pas besoin. Ok, Mathieu, ça marche. Non, mais moi je suis pour des personnages féminins qui sont bien écrits et qui servent à quelque chose, bien sûr. Là, pour le coup, c'était juste en mettre un pour en mettre un. Elle a 3 lignes de dialogue dans tout le manga. Enfin, bref, passons. Donc voilà, pour conclure un petit peu sur Denjinen, c'était un manga intéressant si on prend les différents concepts mis à part. Tout l'électricité, c'était cool. Il y avait plein de moments qui étaient super intéressants et qui étaient très prenants et des moments clés qui était super bien, par exemple la scène du concert à la fin avec Misaki. Ceux qui l'auront lu sauront de quoi je parle.
Je me suis spoilé du coup. Je me suis spoilé. Ne tapez pas ce manga sur l'image, sinon vous allez vous faire spoiler la dernière scène.
Ok, bah c'est super Mathieu, génial. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, si on prend tout dans l'ensemble, moi je trouve que c'était assez décevant. L'histoire, ça n'a pas été assez loin à mon goût. J'aurais aimé que ça soit un peu plus que ça. Ça n'a pas comblé mes attentes. Je suis déçue. C'est tout.
On passe à la suite.
Exactement. Ok. Tu as envie de passer à la suite. On rappelle juste vite fait le nom des œuvres dont on vient de parler. Il y avait Denjinen de. Je vais citer qu'un des 3 auteurs de Yu Kuraishi. Et toi, c'était quoi, Mathieu?
2001 nuits. Alors après, vous le retrouvez peut-être plutôt sous le nom anglais 2001 Nights.
Oh là là.
Et ces deux, j'en trouve. C'est de Yukinobu Oshino.
D'accord.
C'est, édité par Glénat en 2 tomes.
Ok, ça marche. Eh bien, très bien. Eh bien, allez lire ça. Et Denjinen, vous pouvez, mais je ne le conseillerais pas en premier, quoi. On va maintenant passer à la partie actualité. Et quoi de mieux pour bien commencer 2024 que de faire une petite rétrospective sur la fin de l'année 2023. Donc, on va parler des classements des ventes de manga 2023 au Japon. Et au départ, je voulais juste lâcher le classement comme ça. Et je me suis dit que ce serait mieux de faire jouer mes chers camarades, mes chers collègues, mes chers amis, n'est-ce pas, avec
un
moi.
Petit jeu.
Un petit jeu. Pour vous faire deviner les œuvres qui sont dans le classement et dans quel ordre. Donc ce que vous allez faire pour pas que ça soit trop long et ennuyeux non plus, vous allez dire des œuvres et je vous dis si elles sont dedans ou à quelle place. Et si jamais vraiment vous ne trouvez
on
pas
dit
du tout...
On dit la place.
Oui, oui, vous dites okay. la place si vous voulez. Et si vous vous trompez, enfin,
j'en fais rien.
Vas-y, commence.
Non, moi je commence. One Piece.
Mais non, mais moi je dis 3.
Ouais, c'est exactement ça. En plus, One Piece en troisième.
Je savais, mec.
Bravo, vous allez. Êtes trop fort. Ok, One Piece, ensuite.
Jujutsu Kaisen 1.
Non.
Quoi ?
Jujutsu Kaisen est dedans, mais il est pas en 1.
Il est en 5.
Non, il est pas en 5 non plus.
Mais il est 2 alors ?
Ouais, il est 2.
Bah voilà. Ah non, bah par contre, ne me dis pas ce que je pense qui est premier.
C'est Demon Slayer en 1.
Non, c'est pas.
Bah alors, c'est Chainsaw Man en 1.
Chainsaw Man, il est dedans, mais il est pas 1.
Bon, Pierre, dis-nous parce que ça va plus vite comme ça.
Non, attends, dis-le.
Je vous dis la place de quoi ? De Chainsaw Man ?
Oui, ça, si
ouais.
tu veux.
Oui, place de Chainsaw Man, ouais.
Ok, Chainsaw Man, il est. Cinquième.
J'allais le dire. Bref.
Évidemment, bien sûr, t'allais le dire là tout de suite.
C'est pas Demon Slayer en premier.
Non.
Mais attends,
je pense que vous allez avoir du mal à trouver le premier.
Il y a My Hero Academia qui doit être dedans.
Il est dedans. Il est.
Septième.
Huitième. Pas loin. Non, mais c'est bien, vous trouvez.
Mais du coup, juste le premier, ouais. c'est un nouveau manga, un petit indice. C'est un nouveau manga, un ancien, c'est quelque chose qu'on connaît en France.
Il a commencé à sortir en 2018. On le connaît en France totalement. Il a même eu une première saison animée, il me semble, l'année dernière. Et c'est quand même très populaire.
C'est très populaire.
C'est quand même, bah ouais, pas mal. Ces derniers temps, ouais, il a vachement monté en popularité. Hein.
C'est plutôt violent ou plutôt pas violent ?
Non.
C'est un shonen ?
Oui.
Bah oui.
Pourquoi ça pourrait pas être un shoujo par exemple ?
Bah à ton avis. non, mais, si on regarde le top 5,
je rigole. Là, la BD Bedeck.
Non, là pas la BD Bedeck.
Est-ce qu'il y a plus ou moins de 200 chapitres ?
Ah, ça je sais pas.
Mais attends, mais c'est hyper précis.
Peu importe. Il y a combien de chapitres à peu près ?
J'en ai aucune.
Non, parce que juste, bon, pour aller un peu plus vite, est-ce que tu penses que les autres du classement, on les connaît ou pas ? Parce que si ça se trouve,
oui, vous connaissez tout. Il y en a juste quelques-uns, vous n'allez pas trouver, mais juste vous connaissez.
Tu nous les diras au pire.
Oui, je vous les dirai.
Le premier. Je pense que Demon Slayer est quatrième.
Demon Slayer n'est pas dans le classement.
Oh ! C'est vrai ?
Toujours, c'est vrai.
Let's go !
Après, c'est les classements du Japon. Il faut savoir que Demon Slayer, ça s'est fini il y a un moment déjà. Donc, c'est logique que les ventes aient baissé, en fait. Mais du coup, Demon Slayer n'est pas dans le classement. Bon, le premier, je vous dis...
Non, oui, il y a un
saga. Est-ce qu'il est dedans ou pas ?
De quoi ?
Vinland Saga ?
Non, il n'est pas dedans. C'est un manga de sport, le premier.
Non. Je sais ce que c'est.
Vas-y, Mathieu.
Bah, c'est Blue Lock.
Oui.
Mais attends, c'est une blague ?
Non.
En termes de vente, c'est devant...
C'est au Japon, sur l'année 2023.
C'est incroyable, en vrai.
C'est un manga qui est en train de sortir. Qui
mais je suis trop con, il y avait la Coupe du Monde et puis le Japon qui s'est qualifié. Ouais, c'est ça.
Ah, oui, peut-être, j'y avais pas pensé, mais effectivement, ça a peut-être joué aussi. Okay.
Après, ça se vendait déjà bien.
Et ça se
après,
déjà
si tu voulais un peu plus d'informations sur Blue Lock, il y a notre précédente émission, enfin avant-dernière émission.
Oui, c'est vrai.
Qui parlait du sport et on a parlé notamment de Blue Lock pendant un moment.
Mais c'est vrai qu'on peut peut-être revenir hyper rapidement sur chacun. Une phrase.
Bon, allez, Blue Lock, une phrase, Mathieu.
Battle Royale Foot.
Ok. Jujutsu Kaisen, une phrase, Alexandre.
Et comme Naruto.
Le bâtard.
J'ai prié pour que tu dises pas ça. Ça
non,
n'a pas marché.
Exorcisme, combat. C'est sympa.
Le titre, c'est littéralement combat de sorcellerie.
Oui, bon. Non, mais regardez l'animé, c'est bien.
C'est très bien. Il y a un système de pouvoir super intéressant, oui. Bien construit, complexe. Et les personnages sont vraiment intéressants.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment
ouais,
un plaisir à lire.
Non, ça, par contre, c'est très vrai. One Piece, pirate, aventure. One Piece, que dire de plus ? Il y a le quatrième, on l'a pas trouvé.
Et on connaît ?
Vous connaissez certainement deux noms. Vous avez peut-être regardé l'animé.
Si c'est ce que je pense, je suis.
C'est un manga d'idol.
Ah, je sais. Non, attends, c'est. Oh, alors j'ai plus le nom. C'est le truc qui est pas joyeux ?
Je sais pas si c'est. J'ai pas vu, je connais pas.
Mais je sais ce que c'est, je me souviens juste plus du nom.
C'est Oshinoko.
Ouais, c'est ça, je pense à ça.
Moi, je connais pas.
Et bah, moi, je connaissais deux noms. J'ai pas du tout regardé ni vu quoi que ce soit, mais vraiment, c'est bien.
C'est
moi, je connais juste la musique du générique. En quatrième, on a dit Chainsaw Man. Bah, du coup, Mathieu, Chainsaw Man, rapidement.
C'est
compliqué à décrire rapidement.
Complètement fou.
Oui.
Donc, si vous cherchez quelque chose d'un peu bizarre, bon, c'est hyper connu après, mais que vous connaissez pas.
Ouais, tronçonneuse, si en mots-clés.
Et c'est vraiment très très sympa à regarder,
oui.
À lire.
Oui.
En fait, le concept, c'est,
ah, oui.
C'est qu'il y a des démons de plein de choses qui font. Enfin, sur un peu tout.
Qui font peur.
Qui font peur, globalement.
Oui.
Et c'est ça qu'on suit. On suit des chasseurs de démons. Globalement, mais
ils sont un peu tous fous. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est un shonen, mais que ça casse complètement les codes. Il y a plein de morts partout. Le personnage principal, bon, sa quête énorme, sa quête noble, elle n'est pas très noble.
Et c'est un homme tronçonneuse, donc c'est lui-même un démon.
Et puis, il est très humain quand même.
Ouais.
Non, c'est très bien.
C'est un personnage hyper attachant, je trouve. Denji.
Allez, 6.
6. Ça, c'est, ça, vous n'aurez pas pu deviner, c'est Slam Dunk, qui est 6e.
Non, encore,
ouais. Encore, ouais. Bah, en fait, c'est parce qu'il y a une réédition en ce moment qui sort, et je pense que c'est pour ça. Bah, oui, c'est pour ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait une réédition, et j'étais contente, sauf que bon, je ne vais pas l'acheter quand même, parce que ça fait beaucoup. Et voilà. Et, mais du coup, je pense que c'est pour ça que Slam Dunk est aussi haut. Et en plus, Slam Dunk, c'est extrêmement bien. Potek à Slam Dunk rapidement.
On en avait aussi parlé dans l'émission.
Aussi
sur le
parlé
on les a à la BDBDEC.
On les a à la BDBDEC.
On a oublié de dire lesquels on avait à la BDBDEC. On n'a pas Blue Lock.
On n'a pas Blue Lock. On a Jujutsu Kaisen, on a One Piece et on a Chainsaw Man à la BDBDEC, okay, ainsi que Slam Dunk. En 7e place, on a Spy Family.
Non, juste pour parler rapidement de Slam Dunk. Donc c'est un manga de basket,
ouais,
qui est vraiment très très sympa. Et c'est quelqu'un du coup qui découvre le basket. Au début, c'était pour pécho sa crush, il me semble.
Oui, exactement.
Parce qu'il trouvait que les gens qui font du basket sont stylés. Mais ça évolue et ça devient très, ouais, très intéressant.
C'est extrêmement bien. C'est vraiment extrêmement bien.
Allez, c'est une blague.
Ouais, souffle pas trop, s'il te plaît. c'est vraiment très, très bien. Et je peux que conseiller à tout le monde de le lire. Juste après, on a Spy Family, du coup.
On souffle du nez.
Non, c'est bien. C'est un manga comique.
C'est pour les enfants.
Espionnage, c'est une, entre guillemets, une fausse famille qui s'assemble en tant que famille avec le père qui est un agent secret, la femme qui est un assassin, la petite fille
qui est télépathe
et qui s'est fait adopter par les deux autres. Comme...
Et le chien qui voit le futur.
Et exactement, j'ai oublié le chien qui voit le futur.
Ah, je savais pas. Ah si, c'est vrai.
Et au final, il y a juste la petite fille qui est au courant des métiers des parents.
Parce qu'elle est télépathe, du coup. Ça.
Parce qu'elle est télépathe, mm-hmm, mais les parents ne sont pas au courant que la fille, ouais, est télépathe et ne sont pas au courant des métiers de chacun.
C'est ça. Et c'est très drôle.
Donc tout le monde se cache un peu sa vie et tout le monde, du coup, mène une double vie secrète, ouais, et essaye de mener à bien ses missions, en même temps conserver un semblant de vie de famille.
Bon, ouais, juste pour dire, pour moi, c'est une lecture sans prétention dans le sens où ça n'a pas changé votre vie. C'est juste, c'est sympa et on passe un bon moment.
On passe même un très bon moment, ouais, parce totalement, que les personnages sont super mignons, sont adorables. Ils ont une très belle énergie ensemble, une bonne synergie. C'est vraiment
super agréable à lire. Non, mais c'est ça, hein, c'est pour passer un bon moment, c'est pour se détendre, c'est cool.
Bon.
Voilà. Moi, je n'entends pas plus de ça, honnêtement.
Oui.
Et c'est aussi disponible à la BDBDEC.
8, exactement. On a Mero Academia qui est aussi disponible à la BDBDEC.
Bon, shonen, super-héros, c'est bientôt fini.
Mais c'est très bien.
C'est vrai, c'est
moi, je sais pas, j'ai pas lu depuis longtemps, mais je sais que c'est.
Enfin, c'est très bien. Moi, j'ai pas énormément accroché, mais j'aimerais reprendre bientôt parce qu'apparemment, c'est très très bien ce qui se passe en ce moment. Donc.
Ouais, là, ça a beaucoup évolué. Ouais, ouais. Je vais pas spoiler non plus, mais les personnages évoluent bien et mm-hmm, on sent que c'est l'arc final où il y a vraiment, ouais, les plus grands méchants qui sont. Enfin, où il y a les plus gros affrontements.
D'accord.
Avec le plus d'impact et d'importance derrière.
Ouais, je vois.
Mais c'est vraiment très très agréable à lire et on voit vraiment une vraie évolution des personnages par rapport au départ, où certains étaient un peu pleurnichards, ouais, tout ça. Maintenant on voit que c'est leur niveau final, quoi.
Ouais, je vois.
C'est,
je vois.
C'est le pic de leur développement.
Allez lire Mero Academia avant que ce soit fini, du coup. Et en 9e place, on a Tokyo Revengers.
Encore ? Mais c'est pas fini, ça ? En fait, j'en sais rien, ça fait tellement de temps que
je sais pas, moi j'ai pas du tout suivi. J'avais regardé la saison 1, ouais, puis pareil, j'ai lâché.
Donc. Mais il pleure trop, là. Bon, en gros, l'histoire, c'est.
C'est à la base, c'était en une phrase, c'était en quelques mots, les résumés.
Oui, non, mais c'est juste, c'est un mec qui a de rire dans la vie, il meurt, retourne dans le passé, voilà.
Non, et après, du coup, il se fait. En gros, il doit rejoindre. Enfin, au départ, il rejoint plus ou moins des gangs. Et il évolue dans ces gangs, il se développe. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a plusieurs retours dans le présent, oui, et retours dans le temps.
Oui, bon.
Mais que c'est... l'histoire ne se centre pas autour de ces retours dans le temps, ça se centre vraiment autour des histoires de l'époque. Donc, ouais, comment il est rentré dans les gangs, comment il s'est fait des amis, comment il a évolué dedans. Et j'ai trouvé l'histoire très intéressante. Et ça avance, jusqu'à ce qu'il revienne à peu près dans le présent. Et après, ça part en steak. Mais c'est moins,
ouais, intéressant. Bah, moi, j'ai juste vu la première saison. Honnêtement, bah, j'ai quasiment
tout regardé. Moi, j'avais bien aimé, hein, la première saison.
Ouais, déjà, le personnage pleure tout,
oui,
le temps.
Ça...
Et puis, franchement,
oui, mais
même les voyages dans le temps, c'est un peu tiré par les cheveux. Genre, à chaque fois, il revient, il repart, il se passe tout le temps un truc. Pff. Bon, bref, moi, j'aime pas.
Tu voudrais dire que c'est un scénario.
Trop marrant. Je gueule pas.
Oh là là, on va pas passer mille ans sur Tokyo Revengers. Du coup, Tokyo Revengers, c'est quoi ? C'est de la romance, des retours dans
le
passé.
Des gens qui pleurent.
Et des gens qui pleurent aussi. Et de la bagarre, parce que c'est gang lycéen, quoi. Pour finir avec ce petit classement, on a Kingdom.
D'accord.
Oh, trop bien.
Waouh. Voilà. Enfin, non, je dis ça, mais je crois que par rapport à quelques années, il a bien baissé. Hein.
C'est vrai ?
Enfin, non, mais dans le classement, hein, je dis pas en vente, oui, de toute façon, ça a augmenté. Non, non, parce que je me rappelle, j'avais écouté un classement il y a peut-être 2 ans, 3 ans, il était 3e.
D'accord.
Bon. Ouais, après, il y a quand même 700 chapitres, donc c'est normal que...
One Piece, alors ?
Oui, mais c'est un autre niveau.
Waouh ! Oh là 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 !
Oui, non, mais quand t'as 700 chapitres, tu peux pas être en top des ventes à chaque fois.
C'était une blague.
C'est vrai. Okay.
Mais du coup, Kingdom, pour résumer, c'est à l'époque des royaumes combattants en Chine. Donc il y a un fond historique, même si par-dessus c'est très scénarisé, très romancé. Et c'est Shin, donc un jeune qui, de base, part d'esclave et gravit les rangs militaires avec pour objectif et que pour rêve, pour promesse à son frère de devenir un général, un grand général sous les cieux étoilés, donc en gros le grade le plus haut. Et on le voit donc évoluer à travers les batailles, à travers l'unification de la Chine par l'empereur de Chine en parallèle, qui est aussi son ami du coup.
Ok.
Bon, on peut passer à la suite.
Non, mais passons à la suite. Alexandre, tu avais préparé quelque chose à nous raconter.
Alexandre a préparé quelque chose.
Alexandre a préparé mais quelque non. chose par rapport à la, dans la catégorie actualité.
Non, du coup, pour les actualités, donc il y a One Piece, l'animé qui débarque sur Netflix. Alors, il n'y a pas encore tout, mais il y a les épisodes, ça commence à partir du 1089. Et pour l'instant, il y a deux épisodes, mais ça va arriver un par semaine. C'est le nouveau arc Egghead qui est donc, qui sort sur Netflix.
C'est incroyable.
Et c'est vraiment très très bien. Après, on peut espérer que peut-être un jour il y aura tout One Piece sur Netflix, mais il y a sûrement des contrats peu.
Surtout l'info que j'ai vu que t'as pas écrite, c'est qu'ils vont faire un remake de tout One Piece. Ils sont fous.
Oui, c'est vrai.
C'est une très vraie info.
Et des gens qui disent que ça sert à rien, moi je suis pas d'accord. Hein. Quand, si vous regardez les premiers épisodes du tout début.
Ça sert de ouf. Moi je trouve ça vraiment bien.
Après, il y a une identité graphique et tout ça, c'est toujours le débat sur 20 ans. Les techniques ont bien évolué.
Le truc qu'il faut comparer surtout, c'est qu'il y a des animateurs qui vont partir. Ils vont faire des.
Des nuits blanches.
Des nuits blanches.
Ouais. Oui, ça va être
horrible.
C'est difficile pour eux. Ouais.
Bon. Mais donc, comme le dit Mathieu, il va y avoir une animation, un remake. De tout One Piece, donc ils vont commencer par les premières saisons, mais on se doute qu'ils vont tout faire. Après, sur quelle période ça va s'étendre, sûrement des années et des années et des années, bon. Mais on va pouvoir profiter, on va pouvoir le regarder une deuxième fois, ouais. Ça va être super.
Moi, la première fois du coup.
Ouais, j'ai jamais regardé One Piece non plus.
Parce que c'était
trop
vieux et moche. Non, je plaisante.
Mais ça va être l'occasion. Avec le remake, il y a plein de gens qui vont pouvoir se mettre dedans.
C'est ce que je me dis aussi.
Après, si vous voulez découvrir un peu l'univers, il y a aussi le live action qui est aussi sur Netflix. Oui,
que j'ai vu et qui est très bien.
Qui est très bien. Voilà. Et qu'il faut que je voie. J'ai vu le premier épisode. C'est incroyable, les gars. Même si vous n'aimez pas regarder, c'est juste rigolo.
Voilà. Et en plus, ça permet de bien introduire à l'univers avec quelque chose qui est assez accessible à tout le monde. Ça reste du live action, ça reste une série, donc c'est facile. Enfin, c'est très accessible.
Ouais. Sinon, vous pouvez tout simplement lire le manga aussi, qui est très bien également.
Vous pouvez arrêter de lire et faire du sport.
Ça n'a aucun rapport.
Alors que le manga est disponible à la BDBDEC.
Exactement.
Ensuite, pour la suite de mes actualités, il y avait aussi le fait que sur Netflix débarque aussi quelque chose en rapport avec One Piece.
Mais non.
C'est le préquel. C'est un préquel de One Piece qui s'appelle Monsters, l'enfer du dragon volant aux 103 passions. Donc, c'est l'adaptation d'un one-shot publié par Eiichiro Oda, donc l'auteur de One Piece. En 1994, et ça a été publié sur 3 ans, et ça raconte du coup l'histoire de Ryuma Shimotsuki, originaire du pays des Wa, donc de Wano Kuni.
Mais attends, c'est canon ça ?
Oui, c'est canon, je crois. Et on en a entendu du coup Ryuma Shimotsuki, on l'a vu plusieurs fois, on l'a vu plusieurs fois dans One Piece, on en a entendu parler et tout ça, et on nous a dit qu'il avait tué un dragon, et donc ce préquel de 25 minutes nous raconte cette histoire. Donc c'est là où Ryuma Shimotsuki va affronter un dragon qui terrorise les habitants d'un village.
C'est bien.
Et parce que Ryuma s'est considéré comme le meilleur épéiste de son époque, et après ça devient une légende en fait. Et ce qui fait qu'on le connaît encore dans One Piece actuellement, notamment par son sabre que Zoro récupère.
Et par sa ressemblance avec Zoro.
Oui. Il y a beaucoup de théories sur le fait qu'ils sont de la même famille. Et bon. Moi, j'y crois vraiment. Mais
on verra.
Voilà, on verra.
Regardez, ouais. C'est bien.
Complètement.
Petite conclusion.
Complètement. Ouais. Et on voit aussi Cyrano de Bergerac, je crois.
Hein
quoi? Comment ça?
Quoi?
Il me semble.
Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, allez, on passe à la suite.
En tout cas, un personnage qui en est inspiré.
C'est One Piece.
Là, c'est parti trop loin. Qu'est-ce qu'il raconte?
En tout cas, un personnage qui en est inspiré.
Bon, allez, on passe à la suite.
Et pour la dernière petite actu, il me semble, c'est l'adaptation de Solo Leveling enfin en animé.
Oh là là.
Vous avez peut-être lu Solo Leveling en webtoon. Donc c'est assez rapide à lire, c'est très très agréable, très très sympa. Et ça a été un des plus gros webtoons qui a démocratisé le genre. Et qui fait que les webtoons sont présents à la BDBDEC désormais.
C'est vrai.
Et donc il y a maintenant l'adaptation en animé, où il y a les trois premiers épisodes qui sont déjà publiés. et avec une parution hebdomadaire, donc toutes les semaines vous pouvez découvrir un nouvel épisode. L'animation est très très qualitative et l'histoire n'a plus rien à prouver vu que le webtoon a déjà très bien fonctionné, même si Mathieu n'a pas l'air très convaincu, mais comme d'habitude.
Je l'ai pas lu, voilà. Donc je vais rien dire.
À partir de là,
mais voilà, si vous voulez mon avis, bref.
Si vous voulez,
lisez 2000 une nuit, voilà.
Si vous voulez l'avis de Mathieu sur une œuvre qu'il n'a pas lue.
Ouais, exactement.
Bon. Quoi, je vais le lire et je vais cracher dessus. Non, je plaisante. C'est une blague.
Lis-le et tu verras.
C'est une blague. Allez, on passe à la suite.
Mais
on passe à la
suite. L'histoire rapidement de Solo Leveling, c'est dans un monde où il y a des. Bah, c'est une sorte d'isekai très banal, où il y a des portails qui s'ouvrent et des chasseurs, donc des humains avec des capacités un petit peu particulières, qui peuvent rentrer dans ces portails pour tuer les monstres avant que les portails s'ouvrent et libèrent les monstres sur le monde des humains finalement. Et il y a un des chasseurs qui se retrouve dans un portail qui est un peu particulier, et quand il ressort de ce portail, il découvre qu'il peut monter de niveau et progresser, et c'est le seul chasseur qui peut vraiment progresser. Donc il s'entraîne et il devient de plus en plus fort, et il débloque une classe qui est assez rare dans les isekai, c'est la classe de nécromancien en quelque sorte. Donc ça fait toute une histoire assez originale, intéressante, et qui fait courir Mathieu apparemment.
Mais je suis en train de lire un commentaire. Solo Leveling est l'une des pires histoires que j'ai lues de ma vie, et sa lecture était une souffrance de tous les instants. Je pensais l'oublier dans la poubelle à Etron lorsqu'un être maléfique m'a informé qu'il avait du succès, et même un gros succès. Bon bref, c'est que le début.
Après, c'est un commentaire pioché au hasard sur l'immensité qu'est Internet.
Ah non, c'est le premier commentaire que je trouve. Enfin, en fait, j'ai marqué pourquoi Solo Leveling, c'est nul.
Comment on aurait pu se douter que ça serait un commentaire pas optimiste ?
C'est très biaisé. En plus, Mathieu a un avis très négatif sur tout ce qui est les webtoons. Et...
Non, surtout globalement.
Soft Tower of God. Bon, allez, on passe là-dessus, puisque là, on a trop...
Bon, très bien. Puisque Mathieu le demande, nous passons donc à la suite. On parlera plus de Solo Leveling une prochaine fois. On va passer maintenant à... la lecture de quelques articles dans Le Fil. Du coup, pour rappel, Le Fil, c'est le journal de l'UTC dans lequel nous, membres de la BD BEDEC, nous écrivons régulièrement un ou plusieurs articles où on fait une petite critique d'une œuvre, on donne notre avis, on fait des petites recommandations. Je vais passer à la lecture de One Punch Man, maintenant, de l'article sur One Punch Man proposé par Sami J. Le manga a pris une place importante dans la culture populaire mondiale. On ne présente plus les grands classiques du shonen qui sont exportés à l'international et continuent de battre les records d'année en année. Un manga qui a fait parler de lui ces 8 dernières années, c'est One Punch Man, illustré par Yusuke Murata et scénarisé par Wan. Nous suivons Saitama, un héros atypique, capable de vaincre n'importe quel adversaire d'un seul coup de poing. Cette puissance extraordinaire, loin de rendre heureux, le plonge dans un ennui profond, car il ne trouve plus de défis à sa mesure. L'histoire nous plonge dans son quotidien au sein de la ville Z, gangrénée par de la criminalité et les super-héros. Bien que très soucieux de ce qui l'entoure, Saitama finit par attirer l'attention de bon nombre de personnages. Certains d'entre eux pourront peut-être lui donner du fil à retordre. One Punch Man joue avec les codes du shonen en les parodiant. Le personnage principal, avec son air désabusé et son crâne chauve, contraste fortement avec les héros typiques, souvent pleins de charisme et de cheveux. La série aborde des thèmes comme la solitude, l'ennui et la recherche de sens dans un monde où l'on a déjà atteint le sommet de ses capacités. Toutefois, elle le fait sur un ton léger et humoristique, souvent en exagérant les clichés du genre pour un effet comique. On a fini pour cette lecture d'article et ça tombe super bien parce que ça me fait une super transition pour parler de notre thème du jour, les bandes dessinées ou les mangas avec un style graphique exceptionnel, particulièrement bien dessiné. Parce qu'une chose très importante à relever sur One Punch Man, comme dit précédemment, c'est les dessins qui sont particulièrement beaux. D'ailleurs, l'histoire de l'écriture et surtout des dessins de One Punch Man est assez particulière. Alexandre va pouvoir nous en dire un petit peu plus.
Donc, à l'origine, One Punch Man, c'était un web manga, donc en gros, un manga publié en ligne uniquement. Et c'était écrit et dessiné par One, donc O-N-E. Et c'est devenu très vite populaire, donc ça faisait partie des web mangas les plus populaires des plateformes. Et par la suite, One a pris une très longue pause pour des problèmes personnels, à peu près un an. Et à ce moment-là, Yusuke Mutara l'a contacté pour faire un remake et participer en tant que dessinateur. Et c'est là que One Punch Man a commencé à être publié en version papier. Et à ce moment-là, One Punch Man a vraiment explosé et c'est devenu l'immense succès commercial qu'on connaît aujourd'hui. Donc entre l'histoire originale et le remake, c'est globalement le même scénario. Il y a quelques histoires originales qui ont été rajoutées et certains détails qui rajoutent plus de profondeur à l'œuvre qui ont été ajoutés pour compléter l'histoire. Mais globalement, ça reste dans le même. Enfin, ça reste un remake. Et donc on remercie vraiment Yusuke Mutara pour sa participation, parce que ça ajoute un incroyable style graphique sur une œuvre très intéressante. Et ce style graphique est reconnu par tout le monde, donc, alors que le web manga, il avait des graphismes qui laissaient à désirer. Voilà. Si ça vous intéresse de voir la comparaison, n'hésitez pas à taper One versus Yusuke Mutara, One Punch Man, pour comparer les deux styles graphiques. Mais on voit qu'au début, on dirait presque que c'est fait sur Paint, alors qu'après, ça devient un vrai manga magnifique et avec un vrai style graphique propre.
Bah, alors c'est vrai que pour l'histoire des dessins, je m'en suis rendu compte tout à l'heure en faisant des petites recherches et c'est impressionnant. Honnêtement, c'est impressionnant la différence de dessin entre le début et la fin, on va dire, entre grosses guillemets, avant et après le remake plutôt. Mais d'un autre côté, si Yusuke Murata a pris la peine de prendre en charge le manga, c'est qu'il en valait déjà la peine sans les beaux dessins. Donc l'un dans l'autre...
Complètement. Et il fonctionnait déjà très bien, alors que les dessins, en fait, ça ressemblait à des croquis un peu bruts. Oui. Donc c'était pas très agréable à regarder. Mais vu que l'histoire valait le coup, bah, ça fonctionnait bien. Donc il manquait juste des beaux dessins pour compléter l'œuvre.
Ouais, bah c'est exactement ça. Je sais pas si Mathieu, t'as un petit commentaire à faire dessus.
Bah en fait, je crois que vous en parlera dans la prochaine émission. Mais... Donc c'est One, c'est ça qui est dessiné à la base.
Oui.
Mais bah, du coup, il a fait aussi Mob Psycho 100. Mob Psycho 100 n'a pas eu de remake, donc, sauf l'animé, on va dire. Et ça a quand même un énorme succès, je crois.
C'est vrai. Oui, donc, c'est vrai.
Après, je sais... Bon, moi, du coup, je n'ai vu que l'animé. Donc, je ne sais pas pour le manga, mais j'ai un pote qui me disait qu'il adorait le manga, malgré le fait qu'objectivement, c'est pas... Enfin, c'est... Ouais, non, c'est pas bien dessiné. Enfin, non, mais en vrai... Enfin...
Non, mais en vrai, t'as le droit de dire que c'est mal dessiné si c'est mal dessiné. Hein.
Non, mais c'est pas que c'est mal dessiné, mais...
C'est que les dessins sont pas beaux. Ils peuvent être efficaces sans être beaux, les dessins.
Je sais pas, mais c'est juste que...
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Non, mais... Bon, voilà, c'est une blague que vous ne pouvez pas voir, mais mon PC est à moitié pété, donc j'ai essayé de le fermer, on entend des gros... Crac, 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 c'est mon PC, voilà.
Il faut savoir que Mathieu a toujours des problèmes avec ses appareils électroniques.
Voilà. Et là, je l'éteins parce qu'il reste très peu de pourcents et j'ai peur qu'il s'éteigne. Bon, bref. Oh. Bon, allez, on s'en fout.
C'est
donc,
vrai.
Bref.
Passons à la suite. Du coup, la grande question du jour, une des grandes questions du jour, c'est qu'est-ce qu'apporte le dessin à l'œuvre ?
Bon, alors déjà, je vais dire un truc direct, parce que j'ai quand même réfléchi. Bande dessinée. Bande dessinée. Le principe de la bande dessinée.
Il a réfléchi au mot bande dessinée.
Non, mais. Je veux dire, ce qui caractérise une bande dessinée, c'est justement qu'il y ait des dessins. C'est même pas forcément qu'il y ait du texte, c'est qu'il y ait des dessins.
C'est vrai.
Donc, d'ailleurs, il y a des mangas sans texte.
Bah oui. Comme il y a des BD sans texte, mais c'est normal.
Mais des mangas, c'est des BD.
Bah oui, voilà.
Bah oui, on est d'accord là-dessus.
Oui. Non, mais sans texte, c'est assez rare.
Ah bon ?
Bah, des mangas sans texte, oui, t'en connais toi ?
Oui, mais je sais pas comment il s'appelle. Bon, là, la BDBD qui c'est avec un petit dinosaure.
Absolument.
Et voilà, il voit ce que je veux dire. Eh ouais.
Je le connaissais pas, j'avoue.
Bon, là, la BDBD. Bon, bref, je sais pas, c'est pas à moi de parler.
C'est pas grave. Ici, c'est libre, il n'y a pas d'ordre pour la parole, mais Alexandre avait préparé quelque chose pour cette émission.
Ouais. Pour info, le dinosaure, c'est Gon.
Ah oui, c'est vrai.
D'accord. Voilà. Je connais pas du tout.
Ouais, mais c'est très joli par contre. Donc en fait, d'accord, le style graphique compense largement l'absence de texte. Et même s'il n'y a pas de texte, il y a quand même un peu de scénario.
Mm-hmm.
Ça n'empêche pas. Oui, mais c'est juste pas transmis par du texte, c'est transmis par des images.
D'accord.
Donc la question, c'était qu'apporte le dessin à l'œuvre ? Et moi, je pense que le dessin peut apporter l'immersion et l'effet waouh. En fait, il y a une dualité entre le scénario et le dessin, ce qui fait qu'une œuvre littéraire est bien ou pas. Et pour être un chef-d'œuvre, les deux caractéristiques sont indispensables. Un bon scénario et de bons dessins. Dans certaines œuvres, c'est indissociable. Par exemple, je pense à Junji Ito dans son œuvre Tomie, qui on peut pas imaginer cette œuvre sans le style graphique qui va avec. Ça n'aurait plus aucun intérêt, aucune saveur s'il y avait pas le style graphique très particulier qui nous imprègne vraiment dans l'horreur de l'histoire. Et dans d'autres œuvres, c'est un peu plus modulable. Par exemple, pour le One Piece, il y a eu un spin-off qui s'appelle Ace Roman, donc qui nous raconte un peu plus l'histoire de Ace, le frère de One Piece, mais je ne vais pas trop spoiler non plus. Et ce spin-off, il a été dessiné par Boichi, qui est le dessinateur de Dr. Stone. Donc l'histoire qui, de base, rentre dans le cadre de One Piece, est dessinée par un autre auteur que le dessinateur de One Piece principal. Donc c'est là où on peut voir que, parfois, on peut échanger les dessinateurs, changer le style graphique, et ça reste tout à fait convenable. Dans certaines œuvres, les dessins ils servent à procurer des émotions par la beauté du décor. Je pense notamment à Ascension, dessiné par Shinichi Sakamoto, qui nous fait des magnifiques double pages, des magnifiques planches où on voit des paysages mais fantastiques et qui ont à la fois du sens dans l'histoire parce que Ascension, ça nous raconte de l'histoire, enfin l'histoire d'un alpiniste et donc de son rapport avec la nature et face à l'immensité de la nature, des montagnes et globalement des décors qu'il rencontre. Mais ça le complète parce que c'est vraiment magnifique, c'est dessiné dans les moindres détails, avec des beaux paysages qui sont souvent réalistes. C'est vraiment, ça rajoute un effet waouh quand on tourne la page et qu'on tombe sur une double page complète. C'est fantastique. Et dans certaines autres œuvres, c'est pour accentuer, enfin les dessins servent à accentuer l'horreur des personnages ou de l'ambiance avec les décors. Je pense notamment à Berserk, où les dessins vraiment servent à montrer l'horreur et à faire provoquer du dégoût en voyant les personnages avec des dessins très sombres. Et même l'ambiance entière du manga est très sombre, où des fois il y a plus de noir que du blanc de la page. Donc voilà, c'est Berserk de Kentaro Miura. Voilà. Ensuite, je pensais aussi à de nombreuses œuvres qui ont des dessins particulièrement beaux, qui ne servent pas forcément le propos, mais qui ajoutent vraiment un plus à l'œuvre. Je pense à Real, Vagabond ou Slam Dunk, dont on a déjà parlé. Je pense aussi à Jojo, de Jojo Bizarre Adventure, à Vinland Saga, à Kingdom, dont on a parlé aussi, et One Punch Man, où il y a certaines planches, surtout dans les derniers chapitres, où on voit des planètes, des astéroïdes ou des étoiles, et c'est vraiment fantastique. Il existe des versions colorisées de ces planches qui rajoutent vraiment une touche waouh, où on voit l'immensité d'une planète et les effets, la destruction de planètes qui vraiment impacte énormément. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les mangas ont une publication régulière. Souvent, c'est hebdomadaire ou mensuel, et il faut donc publier un chapitre chaque semaine ou chaque mois. Et cette limite, du coup, ça limite considérablement le temps qu'ils peuvent passer sur les dessins. Heureusement, maintenant, pour les gros mangaka, ils se font aider par de nombreux assistants qui permettent d'avoir un très bon résultat malgré la fréquence de publication. Ce qui me plaît particulièrement dans ces œuvres, c'est quand il y a de belles doubles pages qui montrent un énorme paysage complet dessiné dans les moindres détails, qui permet de se projeter dans l'œuvre et d'admirer cette double page, de prendre le temps de se poser et de prendre une pause dans l'histoire pour vraiment respirer et admirer un paysage comme s'il était devant nous. C'est vraiment un effet waouh, et j'apprécie vraiment ça.
Bah, moi, ce à quoi je pense quand tu parles de l'effet waouh avec un grand paysage, je pense à la double page dans Naruto, avec, tu vois, dans l'arc Pain au début, quand il arrive...
dans le ciel.
Exactement, dans le ciel, sur Konoha, tout ça. Ben voilà, c'est tout. C'était super impressionnant. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, pendant que tu parlais, au fait que quand on pense à des moments cultes dans des mangas, ben en fait, c'est débile à dire, mais on pense jamais à des lignes de dialogue, en fait. On pense toujours à des dessins. Et là, c'est ce que je viens de me dire. En fait, c'est quand je pense à des planches ou des panels cultes dans des mangas, c'est toujours des dessins. Et c'est souvent des doubles pages ou des dessins, en tout cas, impactants. Bah, par exemple, celle de Naruto dont je viens de parler, je crois qu'il n'y a pas une ligne de texte non. Sur cette page, je ne crois pas. Et pourtant, c'est hyper impactant quand même. Dans Chainsaw Man, je ne sais pas pourquoi je pense à Chainsaw Man, mais j'en ai aussi en tête, où au final, c'est le dessin qui est hyper prenant. Dans Berserk, il y en a pas mal des planches comme ça, au moment de l'éclipse et tout, surtout. Il y a pas mal de choses, à ce niveau-là. Et je suis assez d'accord avec toi, Mathieu. Qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, moi, ce que j'allais dire, c'est tout que, en fait, je pense que. Donc, tu parles de l'effet où tu parles que d'une seule planche, mais en fait, là, chaque fois, c'est un enchaînement de planches et le découpage. Le découpage, oui, j'allais dire découpement.
Non, découpage.
C'est le découpage qui fait qu'en fait, on. Comment dire ? C'est ce qui est impossible dans les autres médias, c'est qu'en fait, on lit à notre rythme et le découpage va faire qu'on va lire, justement, à une certaine vitesse et on va de nous-mêmes aboutir à une page. Et le découpage et le rythme de l'histoire va faire qu'on va vraiment justement avoir l'effet waouh dont tu parles. Donc par exemple, tu parles d'Ascension, mais en fait, ce qui fait que les planches sont vraiment magnifiques, c'est qu'il y a toute une construction avant de voir ces planches où justement, bon, il gravit sa montagne, machin, il se passe un truc, et d'un seul coup, justement, il casse le rythme et on a la grosse planche avec tout ce qui est super beau. Et là, waouh, regardez, on est impressionné. Il y a la même chose dans tous les mangas d'Inu Asano qui sont beaucoup plus tranches de vie, où pareil, ça construit quelque chose, on est pas dans beaucoup dans un contexte vraiment différent de celui de la contemplation, et d'un seul coup, paf, il nous met une énorme planche, et là on se dit, ah oui, quand même. Et là, c'est bien. Voilà, c'est tout.
Non, par rapport au découpage, je voulais revenir à Berserk, en fait, parce que moi, un truc qui me marque plus que les dessins en eux-mêmes dans Berserk, c'est le découpage. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais je trouve que le découpage dans Berserk, enfin, je le trouve incroyable, en fait. Déjà, la manière dont les cases sont mises les unes à côté des autres, il est assez c'est assez particulier. Elles sont pas... Je sais pas comment expliquer ça comme ça à l'oral, c'est un peu particulier, mais elles sont un peu comme superposées les unes par rapport aux autres. Et je trouve que, mais vraiment, le découpage dans Berserk, c'est une des choses qui me surprend le plus. La manière dont on lit une scène de combat et le mouvement se fait hyper fluidement. C'est pour ça que je comprends même pas pourquoi ils ont fait un animé pour Berserk. Pour moi, ça ne sert à rien. Enfin,
ils en ont pas fait qu'un seul. Hein. Il y en a...
Et je sais qu'il y en a plein en plus.
Qui adaptent la même chose.
Ouais, non, mais c'est ça. Et je sais qu'il y en a pas mal en plus qui ont été faits. Et non, ils n'arrivent jamais. Enfin, j'ai l'impression que je ne les ai pas vus, ces animés-là, mais de ce que j'ai compris, ils ne sont pas formidables non plus. Et parce que quand on lit Berserk, je ne sais pas, on n'a pas besoin d'une animation. Le mouvement, il se fait tout seul, hyper fluidement. C'est... Je ne sais pas. Moi, je trouve ça parfait. Après, c'est personnel. Sans dire que l'œuvre de qu'est Berserk, en général, est parfaite quand même. Faut pas...
Je suis d'accord. Exagérer. Et Berserk, ça se voit qu'il y a énormément de travail derrière pour l'ambiance, pour les dessins. Ça fait partie des mangas avec les pages les plus chargées par des petits détails partout, par des monstres, par des... Il y a des doubles pages où il y a des milliers de détails partout.
Exactement.
Et où l'ambiance est extrêmement travaillée. Donc je comprends ce que tu ressens.
Non, mais tout à fait. Et puis quand on arrive dans une nouvelle ville, dans Berserk par exemple, je vais pas rentrer dans les détails, mais dans une nouvelle ville par exemple, je sais pas, c'est... En fait, c'est cet effet waouh dont tu parlais tout à l'heure. C'est hyper prenante. Là, tu regardes, c'est comme si tu étais devant, en fait. Et c'est pas mal, ça. Et par contre, c'est vrai que ça me fait mal au cœur. Enfin, je pense au fait que nous, on passe quelques secondes, grand maximum, à regarder une page. Et encore moins d'une seconde en général, j'ai l'impression. Très peu de temps, en tout cas. Alors que les dessinateurs ont passé des heures à les dessiner. Et nous, on passe très rapidement dessus. Bon, c'est un peu triste, oui et non, parce qu'au final, on se rappelle quand même de ces planches.
Ouais. Donc, et que les planches qui sont particulièrement belles, on s'attarde quand même dessus.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai aussi. Moi, je voulais revenir sur quelques questions par rapport à ce thème-là. Est-ce qu'on peut lire une œuvre juste parce qu'elle est belle ? Est-ce que les dessins, des beaux dessins, ça suffit pour lire une œuvre ? Est-ce qu'on peut continuer à l'apprécier et continuer de la lire sur une longue période de temps ? Juste parce qu'elle est jolie. Personnellement, moi, des beaux dessins, ça me suffit amplement pour commencer une œuvre. J'ai déjà commencé à lire des choses parce que les dessins étaient très beaux. Je connaissais absolument rien à l'histoire. J'ai commencé, par exemple, Berserk, en fait, j'ai commencé parce que j'ai vu que les dessins étaient très très beaux. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Et je me suis lancée dedans, mais je n'ai pas continué parce que les dessins étaient beaux. Ce n'était pas ma motivation principale, c'est parce que l'histoire me plaisait et que j'étais dedans. Et... C'est vrai que personnellement, à la longue, si je me rends compte que les personnages sont mal écrits, que l'intrigue ne m'intéresse pas, ou que l'intrigue m'énerve, des fois ça m'arrive de m'énerver sur des intrigues parce que je trouve ça trop nul. dans ces cas-là, je continue pas, même si les dessins sont très beaux. Bien que je crois que ça m'est jamais arrivé un conflit comme ça entre dessin et œuvre. J'ai l'impression que souvent ça va quand même un peu de pair en général. On peut trouver du bon quand même. Donc, je sais pas. Ça vous est déjà arrivé des conflits comme ça ?
J'avoue, ça m'est jamais arrivé. Mais oui, parfois, on sent que le scénario est moins travaillé que les dessins. Mm-hmm. Après, souvent, c'est plus... souvent, en fait, c'est assez rare qu'il y ait de vraiment magnifiques dessins sur une œuvre qui n'en vaut pas le coup.
Oui,
souvent,
c'est vrai.
Souvent, c'est les deux qui sont bien travaillés ensemble.
Oui. Non, mais c'est... C'est totalement vrai. Et j'ai pas trop d'autres exemples par rapport
à ça. Après, je suis d'accord avec toi qu'on peut, commencer une œuvre parce qu'elle est magnifique, comme on peut commencer une œuvre parce qu'elle a un très bon scénario.
Ouais.
Et après, par la suite, être déçu si c'est pas suffisamment complet, si les dessins ne valent pas le coup ou si le scénario ne vaut pas le coup. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer, quoi.
Bah, en tout cas, les dessins, c'est toujours une bonne porte d'entrée.
Complètement.
Par rapport à ça. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'est surtout arrivé, c'est de commencer des animés parce que... Parce que j'ai vu des morceaux de l'opening qui étaient cool, parce que j'ai vu des personnages qui étaient stylés, je me suis dit, ah, j'ai regardé. Ça m'est arrivé, j'ai pas d'exemple en tête, mais je sais que ça m'est arrivé vraiment plein de fois. Et au final, j'ai rarement été déçue, je crois. Enfin, je sais plus trop, mais en principe, ça va quand même. Enfin, si j'ai déjà lâché pas mal d'animés parce que c'était chiant, mais des mangas, je crois que j'ai presque jamais lâché de manga normalement.
Ok.
À part un. c'est pas grave.
C'est quoi? Dis-nous.
Ça s'appelle Chiruran. C'est...
Ah, je connais.
Ouais, c'est un manga de sabre. En fait, ça se passe... Oh, je sais plus.
Ah si, c'est Mangetsu, je crois. Non?
L'éditeur?
Ouais.
Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. C'est possible. C'est... Bon, en gros, c'est un manga de sabre. Ça se passe dans le groupe de sabreurs, là, je sais plus comment il s'appelle. Le... Exactement, exactement.
Parce que je regarde toutes les vidéos de Mangetsu, bref.
D'accord. Et voilà, c'est le Shinsengumi, et version shonen, en gros. Et on débute avec un mec, j'ai oublié, ça fait très longtemps. Et en fait, le problème, c'est que les dessins étaient jolis. Pour le coup, les dessins étaient jolis. Sauf que je ne m'y suis pas retrouvée dans l'histoire parce que c'est une... En fait, c'est une période de l'histoire où il faut un contexte pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et moi, je ne comprenais rien parce que l'histoire, elle ne me transportait pas assez dedans, parce que je n'ai pas étudié l'histoire japonaise quand j'étais à l'école. Du coup, c'est pas comme si ça parlait de la Révolution française, là où là, j'aurais pu m'y repérer. Là, pour le coup, j'avais aucun repère. Et je trouvais que l'histoire ne m'aidait pas assez, en fait, à prendre des repères. J'étais perdue.
Donc, c'était un décalage culturel.
Ouais, il y avait un décalage. Enfin, moi, j'ai senti. Tout le monde ne le sentirait pas. Moi, je l'ai senti. Et du coup, j'ai pas réussi à raccrocher les wagons, on va dire. Et en plus, il y avait des choses qui étaient un peu... Enfin, en vrai, il y avait des concepts qui étaient marrants. Il y avait de l'anachronisme, en fait, dedans. T'as des personnages qui avaient des coups de cheveux hyper bizarres, un peu à la Jojo, en fait. C'était drôle. Mais bon, ça n'a pas suffi pour me raccrocher, bien que j'aime beaucoup Jojo's Bizarre Adventure. Voilà.
Très bien, très bien.
Oui, il y avait aussi une autre petite question qui pouvait se poser rapidement. Des dessins magnifiques. Mais quand je dis magnifique, c'est vraiment magnifique. Est-ce que c'est juste pour le plaisir des yeux ou est-ce que ça a un sens dans l'histoire? Est-ce que ça a un sens pour l'histoire de faire de beaux dessins ou alors est-ce que c'est juste joli? Est-ce que ça apporte quelque chose narrativement?
Pour le plaisir des yeux, c'est sûr.
Oui, c'est sûr, mais...
La plupart du temps, quand le style, c'est juste de faire quelque chose de réaliste, il n'y a pas d'objectif artistique. Enfin, si, c'est juste que ce soit beau, c'est justement dans... Moi, je trouve que c'est plutôt dans les styles particuliers qu'on retrouve une intention. Pas quand tu cherches à faire quelque chose. Bon, si, quand tu cherches à faire quelque chose de très réaliste, peut-être, mais justement, la seule intention, c'est d'être réaliste et d'être joli.
Oui.
Enfin, bon, je sais pas, en fait.
Où tu veux en venir là, je sais pas. J'ai pas trop compris.
Je sais pas. Non, mais c'est juste que je comprends pas trop la question. Enfin, pour moi, juste un dessin. En plus, très beau, je sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi?
Je sais pas.
Oh là 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 là, la catastrophe.
Définis la beauté. Non, c'est un peu compliqué.
À quoi servent les magnifiques pages? Est-ce que ça sert le scénario ou est-ce que...
Oui, c'est un peu ça la question.
Ou est-ce que
oui,
c'est juste pour...
Le problème, c'est dans magnifique, c'est dans beau. Enfin, pour moi, quand vous dites magnifique et beau, vous le rattachez là inconsciemment à réaliste.
Non,
est-ce que c'est ça ou pas?
On le rattache à des planches exceptionnelles.
Oui, mais dans ce cas, c'est complètement... Enfin, tu vois bien que Amer Béton...
Dans l'exemple que j'ai, ça se rattache au réalisme, mais c'est pas que...
Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'Amer Béton, bon, le style, de manière objective, c'est pas super beau, mais il y a des gens qui peuvent trouver ça magnifique. Du coup, ça n'a aucun sens de poser une question comme ça. C'est réaliste que tu veux poser.
Moi, ce que je pense, c'est plus les planches exceptionnelles, en mode... Ok, cette planche, elle dénote particulièrement par rapport au reste, parce qu'elle est particulièrement belle par rapport aux autres planches de l'histoire.
Par exemple, moi, je lis un manga qui s'appelle... ça s'appelle Toilette Bound Anako-kun. Arrête, recommence pas à rigoler. Je crois que c'est... Bon, bref. Et le style graphique, il est incroyable. Il faut que vous regardiez ça. Le style graphique est vraiment unique, est vraiment magnifique. L'histoire de base, en fait, ça se passe dans...
Ah mais je crois que je connais.
Ça se passe dans un lycée au Japon et c'est une jeune fille qui s'appelle Nene Yashiro qui va un moment toquer à la porte de l'esprit des toilettes pour demander un vœu en fait ou qui lui exauce un vœu. Sauf qu'en fait elle se retrouve liée à lui au final et ils vivent plein d'aventures avec les esprits de l'école et sauf qu'en fait ça paraît un peu neuneux comme ça on va dire mais le style est incroyable et en plus plus l'histoire avance plus il y a des choses un peu sombres qui se passent on va dire ça. C'est pas qu'un truc, on va faire joujou avec les esprits de l'école, oh là là, et ça parle pas du tout que de ça. Et il y a des vrais enjeux dans l'histoire quand même, je veux pas en trop en dire. Il y a un animé, une première saison qui est sortie il y a un moment maintenant,
ouais.
Et qui était vraiment super bien. Et du coup, voilà, ma question par exemple se posait par rapport à ce manga-là, est-ce que ça sert à quelque chose pour l'histoire d'avoir un style comme ça? Moi je pense que oui, parce que... Bah déjà, le plaisir des yeux, c'est quand même super joli à voir. C'est hyper unique. Et en plus, ça rajoute vraiment quelque chose à l'atmosphère de l'histoire qui est vraiment étrange, en fait. En plus, ça parle d'esprit, ça parle de rêve beaucoup, de spiritualité. C'est pour ça que ça rajoute quelque chose. Ça me fait penser au manga X, dont j'ai pu parler, il me semble, dans la première émission.
Oui.
Oui, et qui est vraiment très bien, d'ailleurs, par rapport à ça. Et je voulais également parler, bon, rapidement... Allez, j'ai le temps, je le fais très
après, rapidement. Après, je parlerai aussi.
Faudra dépêcher.
Ça prendra 5 secondes.
Attention. Moi, je voulais parler très rapidement. Du coup, toujours ce thème du beau. d'un manga que j'aime beaucoup qui s'appelle le Blue Flag, qui est en gros c'est une romance lycéenne entre plusieurs personnages et ça parle d'homosexualité et ça qui est, bah, c'est vraiment très très bien et c'est très bien écrit et c'est surtout très bien dessiné puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Et je pensais à une scène en particulier dont je veux absolument parler parce qu'elle m'a énormément marquée.
Oui, mais tu as spoilé, non, là?
Non.
Bah si.
Bah non.
Okay. Ouais, continue.
Non. Une scène qui m'a énormément marquée, c'est que le style de dessin de l'histoire, c'est un style, on va dire, plutôt pas vraiment. Enfin, c'est pas un style réaliste en fait. C'est manga entre guillemets. Si c'est pas un style manga, mais bon voilà, c'est pas vraiment réaliste, on va dire. Et puis à un moment dans l'histoire, il y a juste sur une planche, le style il change d'un coup. Ça devient beaucoup plus réaliste en fait, et j'ai trouvé ça hyper prenant parce que c'est au moment où il y a un changement de point de vue en fait, et du coup ça montre que le personnage il est amoureux de l'autre parce qu'il le voit d'une autre manière que les autres en fait, puisque la manière de dessiner change, du coup il le voit en beaucoup plus de détails. Et cette scène m'a énormément marquée, et je ne sais pas si des gens ont écouté Blue Flag, vu Blue Flag plutôt, pourront reconnaître cette scène comme ça, mais bon, en tout cas c'est une scène qui m'a beaucoup percutée et qui m'a voilà, que j'ai beaucoup retenu.
Bah, je trouve ça très intéressant parce que du coup là c'est un exemple concret de un moment où le dessin sert le scénario.
Mais exactement, exactement. Et j'ai remarqué que parfois dans ce manga le dessin change dans des moments comme ça en fait justement. Et je pense que c'est pas les seuls mangas où on peut retrouver ça évidemment. Hein. Mais bah, je trouve ça particulièrement particulièrement intéressant. Donc je pense qu'on a fini avec le thème. Sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter, donc on peut passer aux quelques secondes pour Mathieu là de fin d'émission qui a quelque chose à dire.
Non mais là c'est un coup de cœur. Non c'est un coup de cœur. Non, c'est juste pour vous dire que donc là on parle beaucoup d'animation japonaise tout ça, mais l'animation chinoise est incroyable et il faut vraiment aller voir parce que bon en vrai ça fait quelques années maintenant que ça commence à se populariser, mais il y a vraiment énormément de pépites, il y a plein d'animés chinois à regarder. Moi ce que j'aime beaucoup c'est l'animation en 2D, donc pas la 3D, qui sont vraiment magnifiques. Donc je pense à il y a la légende de Hei, H-E-I, je sais pas comment ça se prononce, c'est incroyablement beau. Et il y a Fog Hill of the Five Elements, et ça pareil, c'est pas fini, mais il y a 6 épisodes, et c'est magnifique, vraiment. Je pense que j'ai jamais vu une plus belle animation 2D, même aujourd'hui, après avoir vu la saison 2 de Jujutsu Kaisen, qui est justement magnifique. Ouais, j'ai jamais vu une plus belle animation que l'animation chinoise en 2D. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font, et je pense honnêtement que, bon là, vous n'êtes pas au courant, les animateurs de MAPPA, bon, donc MAPPA c'est le studio qui fait Jujutsu Kaisen,
et qui a fait l'attaque des titans.
Bon bref, apparemment c'est un peu le burn-out là-bas. Alors je pense qu'en Chine, là, vraiment, franchement... Ouais. Non mais tout ça pour dire que c'est tellement beau que je vois pas en fait comment soit ils ont des délais incroyables pour faire ça, soit ils sont traités comme...
Ça j'en ai aucune idée, on risque pas de le savoir malheureusement.
Oh non.
Ah bah rip, je propose qu'on arrête cette émission sur ces belles paroles.
Oh non, pourquoi tu dis pas oh non Alexandre?
Bah, je dis au nom aussi.
Sois oui, déçu que l'émission s'est finie.
Ouais, sois déçu, c'est bon.
Oui, je suis déçu.
Oh, moi aussi, je suis très déçu.
On le reverra plus jamais, on s'en fout.
Oh là là. Bon, et ben je.
Au revoir.
Au revoir. Et on dit au revoir à Mathieu parce que ça se trouve, il refera peut-être pas d'émission avec nous d'ici la prochaine fois. Je sais pas.
Oh non. C'est vrai?
Je sais pas.
Au revoir.
Dans le doute, on dit au revoir à Mathieu. Au revoir Mathieu, qui reviendra dans quelques 5, 6, 7
des
émissions. Non, émission.
Oui, d'accord.
Il a cru qu'il était blacklist.
Mathieu est évincé de la BTBT.
Au revoir.
Bisous. Au revoir.
Au revoir.
Dormez bien. Dormez bien. Vive.